Le progrès chrétien de George Whitehead, partie X, suite. Le roi Jacques destitué par Guillaume d'Orange. Bien que la liberté de conscience, déclarée et accordée par le roi Jacques à nous-mêmes et à d'autres décides, par laquelle nous trouvâmes tous du soulagement, fut enviée par nos persécuteurs, prêtres et autres, cela ne pouvait pourtant être la cause de son abdication, au point d'y pousser la providence divine, ni d'abattre ou de décourager ses armées de le défendre et de le soutenir, car il se croyait en sûreté tant auprès des décides. Commentaire de l'éditeur du site. Le roi Jacques fut le premier monarque catholique depuis la reine Marie, fille aînée du roi Henri VIII. On l'avait surnommée Marie la Sanglante, car elle fit brûler vif de nombreux protestants pour avoir nié la doctrine catholique selon laquelle le vin et le pain sont transformés en corps et sang du Christ lorsqu'un prêtre prononce des paroles particulières. Elle fut suivie par sa demi-sœur protestante Elisabeth, dont le règne fut à la fois populaire et prospère. On ne comptait que 30 000 catholiques dans toute l'Angleterre, mais ils étaient très redoutés et n'étaient pas autorisés à exercer des fonctions au Parlement, car on croyait que leur loyauté allait au pape plutôt qu'au peuple d'Angleterre. Toute la famille du roi Jacques assistait ouvertement à la messe catholique, et lui-même commença à faire avancer la cause de sa religion en autorisant les jésuites à construire un collège à Londres. Cela était particulièrement troublant, car les jésuites étaient tellement suspects qu'une loi en vigueur permettait leur exécution. On les disait l'équivalent d'une police secrète du pape, n'ayant aucun scrupule à empoisonner, à fomenter des révolutions, à assassiner, etc. Le roi Jacques avait envoyé un ambassadeur à Rome et en avait reçu un du pape. Dès lors, la déclaration d'indulgence du roi Jacques fut perçue comme rien d'autre que son complot visant à rétablir la domination catholique au Parlement. On disait même qu'il employait comme conseiller les jésuites tant redoutés, logeant avec lui dans les appartements du château. Dans les derniers mois de son règne, le roi Jacques commit de graves erreurs, écrasé violemment une tentative de coup d'État protestant menée par le duc de Monmouth, en exécutant beaucoup et en déportant 300, remplacé les administrations de trois collèges par des catholiques notoires, et emprisonné sept évêques de l'Église d'Angleterre pour avoir refusé de lire l'une de ses proclamations de tolérance lors des offices. Ainsi, à l'exception des Quakers et des catholiques, Jacques était extrêmement impopulaire dans toute l'Angleterre. Le moment était propice au changement. Guillaume d'Orange, en Hollande marié à Marie, la fille protestante de Jacques, mena la très populaire Glorieuse Révolution afin de remplacer le roi catholique par un roi et une reine protestant. Ce fut une révolution sans effusion de sang, sans combat, car l'armée et la marine anglaise avaient abandonné le roi Jacques pour soutenir Guillaume et son armée débarquant en Angleterre. Sans partisans, Jacques abdiqua en tant que roi en jetant le grand sceau d'Angleterre dans la Tamise et en fuyant en France. Il y résida dans un château fourni par le roi catholique de France, favorable à sa cause. William Penn conseillait et faisait aussi quotidiennement des démarches auprès du roi Jacques. Jacques était un vieil ami de famille de Penn et de son père. Penn plaidait notamment en faveur des Quakers et plus généralement des peuples opprimés. De la part du roi Jacques, Penn obtint rapidement la libération de 10 cides religieuses emprisonnées, dont 1300 Quakers. Nombre de Quakers avaient connu de longues détentions, de 10 à 12 ans, et plus de 500 autres étaient morts dans les quelques années précédentes. Penn avertit le roi au sujet de ses actes consistant à remplacer les responsables des collèges par des catholiques et à emprisonner les sept évêques anglicans, mais son conseil fut ignoré. Pourtant, tout le pays croyait que Penn était un jésuite se faisant passer pour un Quaker, en raison de sa longue influence et de son association avec le roi. Des rumeurs largement répandues de coups d'État catholiques suivirent peu après l'accession au trône du protestant Guillaume. Plus tard, avec l'armée française catholique, Jacques envahit l'Irlande catholique dans une tentative de reprendre le trône d'Angleterre en commençant par conquérir l'Irlande, mais le roi Guillaume partit pour l'Irlande et le vainquit rapidement. Deux rois catholiques n'avaient pas l'influence nécessaire pour établir la tolérance religieuse. Bien que le prédécesseur de Jacques, Charles, eût professé être anglican, il était marié à une catholique, et sur son lit de mort, il renvoya les prêtres anglicans et demanda la présence de prêtres catholiques. Le pays soupçonnait depuis longtemps ses inclinations catholiques, il manquait donc, lui aussi, de l'influence nécessaire pour rétablir la tolérance religieuse. Le roi Charles, comme le roi Jacques, tentèrent de déclarer la tolérance religieuse, mais les parlements refusèrent d'adopter la législation nécessaire, jaloux de leur autorité gouvernementale et soupçonnant que les motivations des deux rois n'étaient que de promouvoir le papisme. Seul un roi protestant pouvait soutenir une telle démarche sans éveiller la suspicion du Parlement et de la population quant aux intentions. Et c'est précisément ce qui se produisit rapidement sous le règne du roi protestant Guillaume, largement populaire et digne de confiance. En lisant le récit des rencontres du roi Guillaume avec les Quakers, Il paraît avoir eu un jugement particulièrement aiguisé du caractère et un esprit équitable. Avec cette compréhension, même si Jacques n'avait pas secrètement nourri l'intention de rétablir la domination catholique, il est plus facile de voir la main du Dieu Tout-Puissant assurant la liberté de culte à son peuple. Les Quakers avaient immensément souffert pendant plus de 25 ans, incapables de rendre un culte sans craindre ou subir effectivement la persécution. Ce fut véritablement un moment décisif de l'histoire, non seulement pour les Quakers, mais pour que tous puissent jouir de la liberté de religion sans ingérence du gouvernement. Qu'est-ce donc qui poussa la providence divine à porter un coup si invisible à son armée, au point qu'elle ne se tint pas debout pour le soutenir? Non pas la clémence, l'indulgence ou la bonté du prince envers ses sujets dissides, guidés par leur conscience, mais quelque autre cause connue au mieux de la majesté divine, le scrutateur des cœurs, par qui les intentions et desseins des hommes et des princes tout autant que leurs actions sont prévues et connues, qui par sa puissance et son esprit peut agir sur les eaux, même sur les esprits des hommes, des nations et des royaumes, pour produire les renversements et révolutions qui lui plaît. Car il est certain que le trésor règne dans et sur les royaumes des hommes, et qu'il les donne à qui il veut et pour les causes qui lui plaît, Dan 4, 17, 25, 32, 35. Gloire au trésor, le grand empereur du monde, qui jusqu'ici nous a aidés, a préservé son peuple particulier et l'a défendu à travers bien des orages et des tempêtes, et a fendu la mer, les grandes eaux et les flots, pour que ses rachetés y passent vers leur héritage éternel et leur repos dans son royaume de gloire et de triomphe, gloire, gloire à jamais. George Whitehead introduit son récit de ses propres démarches et de celles de ses amis au début du règne de Guillaume et Marie par la revue suivante, 1689. La grande et miséricordieuse providence du Seigneur Dieu Tout-Puissant envers nous, son peuple, mérite d'être à jamais mémorisée, et j'espère qu'elle ne sera jamais oubliée de nous, qui en avons réellement eu le sentiment, et l'avons sérieusement considérée au travers de nombreuses grandes épreuves, de profonds exercices et de difficultés, où le Seigneur notre Dieu nous a aidés et soutenus, et n'a pas permis à nos ennemis et persécuteurs de rendre son héritage, parmi nous désolés ou dévastés. Il ne nous a pas livrés à la volonté de nos ennemis, qui souvent exhalaient la cruauté contre nous, menaçant notre ruine et notre désolation. Béni soit notre Dieu, qui a déjoué leurs desseins cruels, retenu le reste de leur colère, et au contraire, a poursuivi sa propre œuvre et l'a fait prospérer, à sa propre louange et au réconfort de son peuple, faisant concourir toutes choses au bien de tous ceux qui aiment véritablement son nom et sa puissance, béni soit-il à jamais. Bien que, pendant l'espace d'environ 25 ans, de 1660 à 1684, nous ayons eu peu de répit de quelque forme de persécution que ce soit, malgré la liberté de conscience si souvent promise et déclarée du haut du trône, la vérité n'a pourtant rien perdu, mais a gagné à travers tout cela. Le temps de la persécution fut un temps de semence pour la vérité et l'évangile de Jésus-Christ, pour lesquels nous souffrions, et les fidèles grandirent et se multiplièrent. La bonne semence de l'évangile, semée et plantée, augmenta et se répandit, même en ces temps de souffrance, que ni le diable ni ses instruments ne purent jamais déraciner. Cette présence divine nous accompagna dans nos profondes souffrances, qui atteignirent et touchèrent tendrement de nombreux cœurs, lorsqu'ils virent notre patience et notre innocence. Le Seigneur nous soutint dans nos nombreuses épreuves et souffrances, par lesquelles beaucoup furent non seulement émus de compassion pour nous, mais aussi amenés à rechercher le Seigneur et sa vérité, la cause pour laquelle nous souffrions patiemment. Comme plus Israël était affligé et opprimé sous Pharaon en Égypte, plus il se multipliait et croissait, de même, plus le peuple du Seigneur a été persécuté et opprimé en ce jour de l'Évangile, plus son nombre a augmenté et s'est multiplié. En quoi la providence miséricordieuse du Dieu Tout-Puissant est encore apparue, pour déjouer les mauvais desseins de persécuteurs impies et d'hommes méchants. Et de plus, il est très remarquable et mémorable de voir comment le Seigneur Dieu, par sa sagesse et sa puissance, est apparu et agi pour son peuple, et ce pour l'amour de son nom et de sa semence souffrant, en ouvrant progressivement la voie à leur liberté chrétienne, même à cette liberté de conscience à l'abri de la persécution, si ardemment recherchée, au point que l'intelligence de beaucoup dans le gouvernement extérieur, jusqu'au plus élevé en autorité, a été éclairée au point de voir que la liberté face à la persécution. Oui, j'ai entendu un personnage important de l'Église d'Angleterre déclarer, comme au nom ou en la personne de l'Église, « ni vous ne sommes en sécurité sans la tolérance ». Et beaucoup qui avaient auparavant pris part à la persécution souhaitent maintenant que leur ancien péché soit couvert, afin d'être estimés sincères pour la liberté de conscience contre la persécution. D'autres, même des personnes de marque, se sont glorifiées et ont semblé se réjouir de n'avoir jamais pris part à la persécution, ni signé de mandat contre aucun de nous pour notre conscience, car il est généralement considéré, par des hommes d'esprit et de sobriété, comme scandaleux ou comme une marque d'infamie, d'être tenu pour persécuteur. comme le Seigneur, notre Dieu, a gracieusement voulu nous aider à travers de profondes souffrances, des difficultés et des épreuves, il a aussi œuvré dans le cœur des hommes au pouvoir, jugeant parmi les dieux pour son héritage, psaume 82, 1. Et afin de donner à ses églises parmi nous du repos après les persécutions ouvertes, il prépara le cœur du gouvernement, après la Révolution, à nous accorder la sanction d'une loi pour notre liberté, avec d'autres protestants dicides, concernant notre exercice religieux dans nos assemblées publiques. Je puis maintenant donner un bref compte-rendu de ladite loi, et de la manière dont moi et d'autres de nos amis nous y sommes engagés. Elle est communément connue sous le nom ou le titre de loi de tolérance, mais le titre réel est « Une loi visant à exempter les sujets protestants de leur majesté, dicides de l'Église d'Angleterre, des peines prévues par certaines lois, Anno Primo Guglielmi et Maria ». Le préambule est « Attendu qu'un certain soulagement accordé à des consciences scrupuleuses, dans l'exercice de la religion, peut être un moyen efficace d'unir les sujets protestants de leur majesté dans l'intérêt et l'affection, qu'ils soient décrétés, etc. » Cette loi contient une grande partie de la substance et de nombreuses clauses du projet intitulé « Un projet de loi d'allègement pour tous les dicides protestants » qui avait tenté d'être adopté en loi par le Parlement du temps du roi Charles I, en 1680 et 1681, mais ne fut pas mené à bien, ni sous son règne, ni sous celui de son frère qui lui succéda, comme relaté plus haut. Un projet de loi fut présenté au Parlement en vue de l'acte susmentionné, intitulé « Une loi visant à exempter les sujets protestants de leur majesté ». Plusieurs de nos amis, avec moi, avions grand soin et grande préoccupation à l'esprit, et nous nous efforçâmes qu'il fût aussi efficace et clair, sans être encombré ni embrouillé par quelques pièges astérisques qu'il contint, autant que nous le pouvions obtenir, afin que nous soyons réellement soulagés de la persécution et que nos libertés religieuses ne soient pas interrompues. La lecture du projet, nous trouvâmes certains passages ou termes peu clairs, mais tels qu'ils tendaient à restreindre nos libertés et à rendre la loi envisagée inefficace, et sur certains points plutôt un piège pour nous si elle est adoptée, en particulier au sujet de certains articles ou confessions de foi que certains membres de la Chambre des communes auraient voulu imposer comme condition de liberté ou d'allègement aux protestants dicides, ce qui semblait viser en partie nous-mêmes, le peuple appelé Quakers. Cela fut occasionné notamment parmi les termes du projet visant à obliger les dicides protestants à prouver qu'ils étaient chrétiens, figurait que tous ceux qui professent la foi en Dieu le Père, et en Jésus-Christ son Fils éternel, le vrai Dieu, et dans le Saint-Esprit, coégal avec le Père et le Fils, un seul Dieu béni à jamais, et qui reconnaissent les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament comme la volonté révélée et la parole de Dieu. Astérisque, il craignait que la confession légale n'inclut 1. Une confession erronée de la Trinité non scripturaire, en 3 personnes, alors que les Quakers croyaient qu'il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et que ces 3 sont 1 Jean 5, 7, et 2. Une confession erronée selon laquelle les Écritures devraient être appelées la parole de Dieu, alors qu'ils croyaient à juste titre que c'est le nom de Jésus, Jean 1, 1 Apoc. 19, 13, et non le nom d'un livre, si cher soit-il. Bien que nous sachions que lorsque le gouvernement avait accordé la liberté de conscience aux protestants dicides, dans l'exercice religieux fondé sur cette raison ou une raison semblable, à savoir l'accroissement de la charité entre chrétiens, et que nulle personne professant la religion protestante, bien que dissident de l'Église d'Angleterre, ne devait être inquiété ni mis en cause pour les mêmes croyances, ce qui est fort juste et plausible, néanmoins, afin d'éviter que certains ne soient heurtés ou pris au piège par certaines expressions. Cette déclaration, John Wotton et moi la remîmes promptement à ce Thomas Clergy, qui, avec quelques autres, souhaitait que nous soyons autorisés à une telle confession de nos croyances, afin que nous ne restions pas sous l'accusation injuste de ne pas être chrétiens, ni que nous soyons ainsi privés de notre liberté religieuse. Nous fûmes contraints de proposer cette confession, celle-ci étant aussi notre bon principe connu, confesser sincèrement le Christ, le Fils du Dieu vivant, sa divinité, et qu'il est la parole éternelle, et que les 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont 1 Seigneur, 1 être, 1 Dieu béni à jamais. Ce Thomas Clergy fut satisfait de notre confession que nous lui avions remise, et il proposa l'acceptation de celle-ci devant un grand comité de l'ensemble de la Chambre des communes, mentionnant nos noms comme ceux de qui il avait reçu la confession. Avec William Mead et John Osgood, nous fûmes alors appelés à la Chambre des communes, afin que le comité puisse entendre notre confession directement de nous-mêmes et que le Parlement en soit plus satisfait en nous entendant. J'eus ainsi l'occasion de répondre très clairement et à leur satisfaction, tant sur le fait que nous reconnaissions réellement la divinité et les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament comme ayant été données par inspiration divine. La manière dont nous croyions aux saintes écritures était leur plus grande préoccupation, et nous leur donnâmes une satisfaction sûre et certaine, tant quant aux saintes vérités contenues dans les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, que quant aux parties historiques conservées pour nous par la Providence. Je perçus clairement que notre confession et notre témoignage avaient eu un effet si sain sur l'esprit du Parlement qu'ils contribuèrent à faire avancer le projet afin qu'il fût adopté en loi. Lorsque le comité envisagea de rendre la loi temporaire pour expirer dans 3 ans à moins d'être renouvelée, je m'y opposai en leur montrant le caractère déraisonnable de limiter notre liberté religieuse et que celle-ci devait être perpétuelle. Ainsi, par notre travail et notre attention à nos besoins, le projet fut adopté en loi. Il en résulta, sous le règne du roi Guillaume, une première étape dans l'obtention par la loi de la liberté de tenir paisiblement nos réunions religieuses pour l'adoration de Dieu, sans molestation ni trouble de la part d'informateurs ou d'autres personnes. Cependant, nombre de nos amis restèrent prisonniers et poursuivis par des prêtres et des magistrats pour non-paiement de la dîme, et ils les maintenaient détenus principalement pour comptant, comme on l'appelle, pour n'avoir pas prêté serment sur les requêtes et plaintes des prêtres. Plusieurs cas furent examinés parmi nous, et nous les fîmes exposer et documenter impartialement. Les amis convinrent qu'ils devaient être présentés au roi, afin qu'il comprît à la fois leur souffrance pour ne pas payer la dîme et pour ne pas prêter serment, considérant que les comptants des lois, ou plutôt du tribunal, étaient réputés être au profit du roi, qui avait donc le pouvoir légal de pardonner et de décharger les personnes soumises à cette procédure de jugement pour comptant. Les amis me demandèrent de présenter notre cause au roi et d'emmener avec moi plusieurs de nos amis qui étaient libres de se rendre disponibles. J'ai toujours été disposé à servir et à aider ceux qui souffrent, comme je l'avais fait avec les deux rois précédents, selon mes capacités et selon ce que le Seigneur voulait bien me donner. Je souhaitais que mon ancien compagnon de démarche, Gilbert Lattay, Thomas Lowe, Dr. John Taylor D'York, mon beau-frère, et notre ami Daniel Carr m'accompagnent auprès du roi, et tous y consentirent, comme je savais qu'ils le feraient. Daniel Carr était connu du roi, ce qui n'était pas le cas des autres. Il entra le premier pour obtenir que nous soyons admis en sa présence. Le roi lui demanda qui nous étions et quelle fonction nous occupions parmi les amis. Daniel lui répondit que nous étions ministres et anciens. Le roi nous fit alors entrer dans un petit appartement privé, ou une pièce, où il était seul, et je lui présentai notre cause, que je le priai d'accepter favorablement ce qu'il fit. Il nous demanda de quel lieu nous étions, ou à quelle congrégation nous exercions notre ministère. Cela me donna bonne occasion de lui répondre que nous n'étions pas établis comme ministres ou pasteurs sur des congrégations particulières, mais que nous visitions les assemblées de nos amis en de nombreux endroits, selon que le Seigneur nous y inclinait. Car nous ne tirons pas profit de notre ministère, nous ne recevons ni salaire ni rémunération pour prêcher, mais nous prêchons gratuitement l'Évangile, selon le commandement du Christ à ses ministres, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Le roi ne répondit pas, mais parut très sérieux et satisfait de ma réponse. Je proposai de lui lire notre requête, il dit non, qu'il la lirait lui-même, semblant plutôt disposé à nous entendre en discussion qu'à lire à ce moment-là. Je l'informai alors que la cause principale des souffrances de nos amis, à ce moment-là, était qu'ils ne pouvaient répondre sous serment aux poursuites des prêtres pour la dîme, ce qu'ils refusaient en toutes circonstances par conscience, et par conscience également, ils refusaient le paiement de la dîme, ce dont les prêtres tiraient grand avantage contre nos amis, les entraînant vers des comptants et des emprisonnements, et procédant à des saisies de leurs biens et de leurs domaines. C'est pourquoi nous avions demandé au Parlement de nous soulager dans la question des serments, afin qu'ils ne nous soient imposés en aucun cas. Nous offrions de nous soumettre à la peine prévue pour parjure si l'on découvrait que l'un de nous était faux ou corrompu dans ses preuves ou témoignages rendus sans serment. Mais nos démarches auprès du Parlement n'ont pas eu l'effet souhaité, étant parfois prorogées ou autrement interrompues avant que nous puissions faire aboutir notre cause dans les deux chambres. Ce cas de conscience, à savoir notre refus de prêter serment, lui dis-je, est le même que celui du peuple appelé Méniste de son pays natal hollandais dans les Pays-Bas, où c'était aussi une affaire de conscience, à qui ses prédécesseurs anciens gouvernants d'Hollande avaient accordé la liberté que leurs paroles, lorsqu'ils témoignaient de la vérité devant les tribunaux, soient acceptées au lieu d'un serment, ce qui est ce que nous désirons. C'est pourquoi, lorsque nous vîmes que le moment était venu de nous adresser de nouveau au Parlement pour obtenir un soulagement sur ce point, je demandai au roi de nous être favorable et de recommander avec bienveillance notre cause à quelques membres influents du Parlement, ce qu'il promit sérieusement de faire. Et en effet, il tint sa promesse, comme nous l'apprîmes de certains membres notoires du Parlement, amis de notre cause. L'un d'eux en particulier me dit qu'il était présent avec le roi et un membre de la Chambre des Lords, et qu'il les avait entendus discuter des Quakers, et comment le roi plaidait en leur faveur, contre certaines objections que ce Lord formulait à leur encontre, à savoir, qu'ils étaient opposés au gouvernement, ou mal disposés envers lui. Et que le roi lui répondit, « Monseigneur, je ne suis pas de votre avis, car il y a parmi eux un peuple honnête. Voilà ce dont je me souviens très bien, le dit membre, ce John Austin me l'ayant rapporté. Après avoir répondu au roi sur plusieurs points mentionnés ci-dessus, relatifs à notre conscience et à notre témoignage chrétien, il formula cette objection : Vous êtes un peuple divisé. Je lui répondis : Non, en tant que peuple, nous ne sommes pas divisés, mais unis, bien qu'il y en ait quelques-uns qui se sont séparés ou se sont retirés de nos astérisques, et qu'ils ne sont donc pas des nôtres, comme autrefois, certains se séparèrent et se retirèrent des chrétiens primitifs. Et bien que certains se soient retirés, séparés ou révoltés contre nous, nous demeurons un peuple dans l'unité, c'est-à-dire de la même foi et de la même profession. À quoi notre ami John Taylor ajouta : Ceux qui se sont tournés vers la séparation ou la division d'avec nous étaient des personnes désordonnées, que nous avons donc désavouées, ou à peu près en ces termes. Et j'ajoutai encore, que j'avais connu le peuple appelé Quakers depuis le commencement, et qu'en tant que peuple, ils étaient toujours les mêmes quant à la foi et au principe, lequel ne permet pas la division ou la séparation dans notre société chrétienne, et que nous n'étions pas un peuple divisé. Astérisque, cela renvoie probablement à la séparation de Wilkinson. John Wilkinson, avec un certain nombre de Quakers, s'écarta de l'unité, estimant que toute règle de conduite dans leur vie personnelle était une imposition à leur conscience. Ils n'étaient que quelques-uns, mais les critiques des Quakers ne manquaient pas de les signaler, surtout à un nouveau roi. La plupart revinrent finalement. Le roi répondit en substance : Mais certains parmi vous sont mal disposés envers le gouvernement. Je répondis : Il nous est difficile de pénétrer les affections privées des personnes sans quelque acte manifeste. Nous ne savons pas que l'un de nos amis ait manifesté une malveillance envers le gouvernement, car si nous savions avec certitude que l'un de ceux qui sont en communion avec nous devait, par quelque acte manifeste, en parole ou en action, montrer une quelconque malveillance envers le gouvernement actuel, nous le désavouerions assurément sur ce point et rendrions témoignage contre lui. Il est vrai que, ces derniers temps, on nous a diffamés et travestis par des sobriquets, tels que Midas et Penit, comme si nous établissions parmi nous des maîtres de secte, mais nous ne reconnaissons rien de tel, seulement Jésus-Christ comme notre unique maître, puisque nous sommes une société et un peuple chrétien. Le roi parut pleinement satisfait de ma réponse et du reste de notre entretien, se montrant très sérieux dans l'attention qu'il prêtait aux questions qui lui étaient soumises. J'éprouvais une très grande satisfaction et une grande liberté d'esprit à exposer plusieurs questions importantes relatives à nos principes et à notre témoignage, d'autant plus qu'il écoutait avec sérieux, prêt à entendre et à recevoir des informations à notre sujet. Vers la conclusion, je proposais au roi que, puisque le Lord Keep, Lord Sommet, connaissait les lois et la meilleure manière dont le roi pouvait, en toute sûreté, étendre ses prérogatives, particulièrement dans le cas que nous avions remis, si cela lui plaisait, nous lui en remettrions une copie afin qu'il fût mieux préparé à conseiller notre cause, sur la manière dont le roi pourrait libérer nos amis, prisonniers pour ou contents, comme exposé dans la dite requête. Le roi répondit : Vous pouvez la lui remettre, car je parlerai à mon Lord Keep à ce sujet. Après notre humble et reconnaissant remerciement pour la bonté du roi envers nous et envers nos amis souffrants, nous nous retirâmes. Commentaire de l'éditeur du site : C'est une réaction incroyablement rapide pour un roi. Par l'unique appel de Whitehead, le roi s'engage à aider les Quakers à obtenir un soulagement face aux lois oppressives, abusées depuis longtemps, concernant le refus de prêter serment. Les questions du roi étaient profondes et allaient droit à ses préoccupations, tandis que les réponses de Whitehead étaient si simples et si claires que le roi fut immédiatement gagné à la sympathie pour l'innocence et les intentions pacifiques des Quakers. Le lendemain, ou peu après notre entretien avec le roi, notre ami John Edge alla avec moi auprès du dit Lord Keep avec une copie de la requête que nous avions présentée au roi, que j'introduisis ainsi en la lui remettant. Je lui dis que nous avions présenté la requête au roi et que, ayant entendu de bons rapports sur son caractère, étant au fait de sa réputation, nous l'avions hardiment recommandée au roi pour lui demander conseil dans cette affaire, sur la manière dont nos amis, prisonniers pour un comptant, pourraient être libérés. Et le roi nous avait dit qu'il parlerait de cela au Lord Keep. Le Lord Keep le prit avec bienveillance, montrant non seulement sa propre disposition, mais aussi son désir que les amis souffrants soient libérés et jouissent de leur liberté. Et il nous confia librement que le roi était véritablement pour la liberté de conscience des dissidents, et que c'était là son principe réel, ce que nous fûmes très heureux d'entendre de sa part, lui qui était une personne d'honneur et de crédit. Voici une copie de la requête susmentionnée, remise au roi et au Lord Keep. Au roi, la requête et demande du peuple pacifique, communément appelé Quakers, au nom de beaucoup d'entre eux qui souffrent actuellement pour raison de conscience, humblement présentée. Montrant que de même que le Dieu de toutes nos miséricordes nous a préservés comme un peuple paisible et tranquille dans le pays, conformément à nos principes et à notre profession chrétienne, sous les diverses révolutions de gouvernement, de même nous espérons humblement et résolvons, par son assistance divine, de toujours continuer ainsi. étant de tout cœur reconnaissant pour les diverses bontés et compassions reçues du gouvernement, en particulier pour la liberté présente dont nous jouissons maintenant par la loi dans la pratique du culte. Parce que tant de ces Quakers continuent d'être en proie à de profondes souffrances, tant dans leur personne que dans leurs biens, du fait de longs emprisonnements, saisies et séquestres. Plusieurs sont aussi morts récemment en prison, et beaucoup d'autres sont poursuivis et exposés à souffrir ainsi en Angleterre et au pays de Galles. Cela tend à la ruine de nombreuses familles pour ces cas de conscience, à savoir, principalement pour contents, tels qu'ils sont jugés pour ne pas avoir répondu sous serment, dans des affaires de dîmes lorsque poursuivis à l'échiquier, et aussi pour ne pas avoir répondu sous serment lorsqu'ils sont poursuivis devant les tribunaux ecclésiastiques pour la dîme, les taxes d'église, etc. Il s'ensuit qu'on procède à l'excommunication et que, par des significavis, on obtient des writs de excom, cap et parfois des mandats de juge pour l'emprisonnement. Nous rappelons donc humblement au roi que les grandes sévérités et persécutions autrefois infligées contre nous furent parfois atténuées et soulagées, lorsque Dieu voulut toucher le cœur des rois et des gouvernements pour nous montrer quelques compassions et faveurs, dont voici quelques exemples. 1. Par la proclamation de grâce du roi Charles Yi en 1661, par laquelle beaucoup de nos amis furent libérés et sortis des prisons. 2. Par ses lettres patentes ou pardons en 1672, conformément à sa déclaration d'indulgence envers les consciences sensibles la même année. 3. Par un acte du Parlement 25 car 2 chap. 5. Intitulé « Une loi concernant le très gracieux et général pardon de Sa Majesté le Roi, pardonnant les « contents », etc. » contre le roi, par laquelle beaucoup de Quakers furent aussi libérés et relâchés des prisons. 4. De même, sous le roi Jacques Yi, beaucoup furent libérés des prisons et soulagés par de nombreuses commissions et deux pardons généraux par proclamation, l'un en 1685 et l'autre en 1688. 5. Et aussi par un acte de gracieux général et libre pardon, la deuxième année du règne du roi Guillaume et de la reine Marie, plusieurs furent déchargés de contents et d'emprisonnement. 6. Par votre récente consort la reine, sur demande qui lui fut faite en votre absence, une pauvre femme innocente, qui avait été l'unique prisonnière à Lancaster, à la suite d'une amende fut libérée, ce que, comme une indication du tendre et miséricordieux tempérament de la reine, nous avons reconnu avec grande gratitude, comme nous reconnaissons aussi très aimablement la récente inclination favorable du roi à libérer deux de nos amis, emprisonnés pour amende dans le Westmoreland, sur une pétition présentée par notre ami Daigne. Ces précédents notables de faveur et de compassion envers les opprimés, et les détentions et difficultés présentes de nombreuses personnes innocentes étant tendrement considérées. Nous, le dit peuple, demandons humblement que le roi veuille bien étendre sa faveur et sa compassion envers les dits souffrants, pour leur soulagement et leur délivrance légitime de leurs détentions présentes, prisons et difficultés, soit par proclamation soit autrement, selon ce que sa sagesse et sa clémence jugeront le plus approprié et le plus convenable. Cette requête fut présentée au roi Guillaume Yi, le 2 jour du deuxième mois, 1695, par George Whitehead, Gilbert Lattay, Thomas Lowe, John Taylor et Daniel Carr, et fut favorablement acceptée. Peu de temps après que la requête susmentionnée concernant nos amis alors souffrants et prisonniers eût été présentée au roi et au Lord Keep, il fut promulgué un acte de grâce par le roi et le Parlement, en 1695 intitulé « Pardonnant les contents, etc. », à la suite duquel environ 40 de nos amis furent libérés des prisons. Quant à nos efforts, auprès du Parlement pour être soulagé dans la question des serments, afin qu'on cesse de nous les imposer, j'ai jugé tout à fait approprié et nécessaire d'en donner quelques comptes rendus, ayant été fortement préoccupé d'assister les amis dans cette affaire importante, où certains d'entre nous travaillèrent innocemment tôt et tard en démarche. 1. Amener les membres du Parlement à une juste compréhension de notre cas, comme étant un cas de conscience envers notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous sommes soumis à son interdit et à son commandement exprès de ne pas jurer du tout, ni en aucun cas. 2. Leur montrer la grande nécessité de nous accorder quelque soulagement dans ce cas, face aux difficultés, oppressions et déceptions que beaucoup ont subies, parce que, par conscience, ils ne pouvaient jurer ni prêter serment, soit pour se secourir eux-mêmes, soit pour secourir leurs voisins. 3. Notre co et notre pétition au Parlement, et une copie du projet de loi tel qu'il passa à la Chambre des communes, ainsi que la manière dont l'affirmation solennelle fut formulée et adoptée par la Chambre des Lords, sont clairement exposés et rapportés dans la compilation qui suit. Le cas de souffrance du peuple communément appelé Quakers, relatif au serment et au fait de jurer, humblement présenté. Il n'est pas inconnu à cette nation que, depuis que nous sommes un peuple, il a toujours été notre principe de ne pas jurer, ni faire, ni prêter serment, ce que celui qui sonde tous les cœurs sait n'être rien d'autre qu'une affaire de pure conscience, dans une obéissance sensible à la pensée de notre bienheureux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme nous en sommes pleinement persuadés, conformément à ce que furent aussi beaucoup d'éminents martyrs et hommes de sagesse et de renom, qui témoignèrent contre les serments et le fait de jurer en ce jour de l'Évangile. Nous voulons réellement répondre aux fins justes et bonnes de la loi et du gouvernement, comme un peuple paisible craignant Dieu, et pour cette cause de ne pas jurer, nous avons été exposés à de grandes souffrances et incommodités, en nos personnes et en nos biens par de longues détentions, et empêchés de recouvrer nos dettes légitimes ou de défendre nos titres et propriétés justes. Nous n'avons pas le droit de témoigner devant les tribunaux de justice selon le droit commun ou civil, ni de répondre à la chancellerie ou à l'échiquier, de faire homologuer. Pour cette raison aussi, nos enfants et nos jeunes gens ne sont pas admis à leur franchise dans les villes ou corporations lorsqu'ils ont fidèlement accompli leur apprentissage, ni autorisés à donner nos voix dans les élections des magistrats et des membres du Parlement en plusieurs endroits, bien qu'on sache qu'ils y ont droit comme propriétaires fonciers, etc. C'est pourquoi notre demande est que, dans tous les cas où des serments sont imposés et où l'on exige de jurer notre parole, c'est-à-dire notre affirmation ou dénégation solennelle, comme dans la crainte et la présence de Dieu, puisse être acceptée au lieu d'un serment. Et nous offrons humblement et nous soumettons librement à ce que, si quelqu'un parmi nous de la même profession manque sa parole, ou est trouvé mensonger dans une telle affirmation ou dénégation, ou coupable de fausseté dans quelque témoignage, preuve ou réponse que ce soit, alors aux membres respectifs de la Chambre des communes, l'humble requête du peuple communément appelé Quakers. Nous, le dit peuple, étant membre de ce corps que vous représentez, et engagé dans le commerce et l'industrie, et employant beaucoup de pauvres dans les manufactures de cette nation, contribuant aussi aux charges du gouvernement selon nos moyens, désirons et sollicitons humblement que nos libertés, droits et propriétés soient assurés à nous et aux nôtres, afin que nous ne soyons plus exposés à des procès injustes et vexatoires, ni la proie de personnes mal intentionnées, qui profitent nous pour nous poursuivre et nous ruiner, uniquement parce que. C'est pourquoi nous implorons humblement votre compassion chrétienne, en acquiesçant favorablement notre pétition, qui est de nous accorder la permission de présenter un projet de loi pour notre soulagement, et de considérer notre cas de souffrance comme s'il était le vôtre, et vous à notre place, afin que nous et notre postérité ayons sujet de bénir le Seigneur pour vous. La Chambre des communes d'Angleterre, assemblée en Parlement, l'humble pétition du peuple appelé Quake, exposant que nos nombreuses, longues et renouvelées souffrances pour n'avoir pas juré, nous l'espérons, peuvent donner satisfaction à cette nation, quant au fait que c'est purement par principe de conscience et de religion que nous ne jurons en aucun cas, dans une obéissance respectueuse au commandement de notre bienheureux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme nous en sommes pleinement persuadés, et selon l'exemple de nombreux martyrs éminents et hommes. Néanmoins, nous avons été, et sommes encore, exposés en nos personnes à de longs emprisonnements, en nos biens à des séquestres et saisies, empêchés de défendre nos titres et propriétés légitimes, de recouvrer nos dettes dues, ou d'aider autrui en des cas semblables, et soumis à de nombreux procès injustes et vexatoires. C'est pourquoi, le pouvoir de nous soulager par la loi de ces griefs, et difficultés reposant sur le roi et le Parlement, notre humble requête est que vous ayez la bonté de permettre qu'un projet de loi soit présenté, afin que notre affirmation ou dénégation solennelle soit acceptée au lieu d'un serment, en nous soumettant librement à ce que quiconque, en ce cas falsifiera la vérité et en sera d'une convaincue, subisse les mêmes peines et sanctions que la loi et la justice réservent aux personnes parjures. Cette pétition fut approuvée et signée par les amis suivants. John Staplow, John Ranwood, William Bingley, Walter Benshall, Joe Roll, George Whitehead, Thomas Lowe, Gilbert Latte, William Mead, Richard Thomas, Thomas Hudson, Thomas Hart, Theodore Eccleston, Joe Butcher, Michael Russell, Samuel Jobson, John Hermon, Daniel Carr, John Bull, George Oldney. Notre pétition fut approuvée par tous. On prépara donc quelques copies pour des membres du Parlement, que nous montrâmes à beaucoup de la Chambre des communes. Et il nous fallut plusieurs semaines de sollicitations pour les préparer à notre cause et à notre pétition, afin qu'elle ne soit pas présentée trop tôt ni trop brusquement, avant que nombre de membres ne fussent bien informés et préparés. Je m'adressai tout particulièrement à Edmond Wall et l'engageai à nous aider en cela, lui ayant alors une influence assez considérable dans la Chambre, étant une connaissance et un ami personnel. Et lorsque je lui fis pleinement comprendre notre cas et ce que nous demandions, il entreprit sincèrement de nous assister autant qu'il le pourrait, et fut d'un grand secours par ses démarches et par la motion à la Chambre en faveur de notre dite pétition, laquelle, une fois proposée, fut lue le 7 du 12e mois 1695. À ce moment-là, nombre de membres vinrent à notre rencontre avec une grande joie, amour et tendresse aussi, et montrèrent leur satisfaction d'avoir si bien obtenu ce point pour nous. La permission ayant été accordée, comme auparavant, de présenter un projet de loi pour notre soulagement conformément à notre pétition, plusieurs ébauches furent préparées, la première par le conseiller Cognier, qui était assez ample et longue. Toutefois, il y prit quelques peines pour répondre à ce que nous demandions dans notre pétition, notamment que notre affirmation solennelle, etc. soit accepté au lieu de prêter serment et pour nous exempter de jurer. Dans son projet, il exposait la chose ainsi, que les Quakers devraient déclarer solennellement la vérité, de la même manière et selon la même forme de mots que sont employés par toutes les autres personnes tenues de faire une telle déclaration, à la seule exception de l'attestation sous serment, c'est-à-dire que les mots « jure » et « ainsi Dieu me soit en aide », etc. seraient omis. Mais ensuite, pour rendre notre attestation, affirmation ou négation aussi solennelle que le Parlement et les tribunaux de justice, etc. l'attendaient de nous, la plupart de nos amis au Parlement estimaient qu'il fallait quelques expressions solennelles ou sacrées, religieusement tournées vers Dieu, comme pour déclarer solennellement la vérité en sa présence, ce à quoi nous n'osions nous opposer, de peur d'être tenus pour athées, car il est de notre principe que Dieu est omniprésent et omniscient aussi. Cependant, puisqu'il y a sécurité dans la multitude des conseillers, nous discutâmes ce point avec plusieurs hommes judicieux de la Chambre des communes, afin d'avancer avec toute la sûreté et le succès possible. Nous allâmes, en particulier, voir ce Francis Winnington, un ancien et habile conseiller, qui nous était d'un grand appui, et nous lui montrâmes l'ébauche du projet de loi du conseiller Cognier. Après examen, ce Francis jugea qu'elle était beaucoup trop longue et qu'il serait trop fastidieux et difficile de la faire passer à la Chambre pour en faire une loi, ajoutant cette raison, qu'il valait mieux qu'elle fût trop courte que trop longue, afin que le comité puisse l'amender, et qu'alors il serait plus disposé à la faire passer. Il rédigea donc un projet court, mais il ne voulut pas y inclure l'usage d'un simple oui ou non pour témoigner devant un tribunal, disant que si nous proposions un tel projet à la Chambre des communes, on s'en moquerait et il serait rejeté. Beaucoup d'autres étaient du même avis, que des expressions ou termes devaient être proposés dans le projet de loi, afin qu'ils paraissent solennels ou sacrés, tant pour l'affirmation que pour la négation, comme déclaré, en la présence de Dieu, à l'appui d'une réponse ou d'un témoignage, etc. Leur forme de serment et le fait de jurer ayant été établis depuis si longtemps, et l'on y ayant attaché un si grand poids et une si grande obligation pendant plusieurs centaines d'années, il était très difficile, et c'était une grande chose, d'obtenir quelques variations ou modifications que ce soit, permettant de déclarer ou d'affirmer en conscience, en la présence du Dieu Tout-Puissant, au lieu du serment imprécatoire « Ainsi Dieu me soit en aide », avec la cérémonie de manipuler du bout des doigts et d'embrasser la Bible. Obtenir une modification aussi significative, d'un serment et d'une imprécation vers une affirmation simple et solennelle, fut en effet un grand accomplissement. Beaucoup de nos amis en eurent vivement conscience et en furent reconnaissants lorsque cela fut obtenu. Copie du projet de loi sur l'affirmation solennelle, au lieu d'un serment, tel qu'il fut rédigé par Sir Francis Winnington, corrigé et adopté par la Chambre des communes, la clause relative aux dîmes en ayant été omise, conformément à l'ordre de la Chambre des communes, et figurant ainsi dans la loi imprimée. Attendu que beaucoup de dissides, communément appelés Quakers, refusant de prêter serment dans les tribunaux de justice et en d'autres lieux, sont fréquemment emprisonnés et leurs biens séquestrés par des procédures pour outrage émanant de ces tribunaux, à la ruine d'eux-mêmes et de leurs familles. Pour y remédier, qu'il soit édicté par la très excellente majesté du roi, sur la vie avec le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes assemblées en ce présent parlement, et par l'autorité des mêmes qu'à partir du 4 mai, qui sera en l'an de grâce 1696, tout quick dans ce royaume d'Angleterre, le dominion du pays de Galles, ou la ville de Berwick-upon-Tweed, auquel il sera requis en quelque occasion légale, de prêter serment en quelque cas ou de par la loi, un serment est requis. Et il est en outre édicté, par ladite autorité, que si quelque quick, faisant une telle affirmation ou déclaration solennelle, est légalement convaincu d'avoir volontairement, faussement et de façon corrompue affirmé ou déclaré quelque fait ou chose, qui si cela avait été sous serment, aurait en quelque cas constitué un parjure volontaire et corrompu, tout quick ainsi fautif encourra les mêmes peines et confiscations que celles que les lois et statuts de ce royaume édictent contre les personnes convaincues de parjure volontaire et corrompue. Le projet de loi fut lu une première fois le 17 du 12e mois, Févre, 1695 et une seconde fois le 3 du 1er mois 1696, puis renvoyé en commission. Le même jour, la commission se réunit, pour son renvoi 130 votes contre 68, 62 de plus pour que contre. Le 4 du 1er mois, la commission se réunit de nouveau et adopta le projet. Le 10 du 1er mois, il fut ordonné qu'il soit mis au net, et le 13, le projet passa à la Chambre des communes par 146 voix pour et 99 contre, 47 oui de plus que non, et le même jour il fut porté à la Chambre des lords où il fut lu deux fois, mais l'opposition que quelques membres de cette Chambre nous firent en cela causa notre plus longue présence et notre travail pour les informer correctement de notre cas et de la nécessité que nous avions d'être soulagés. En raisonnant avec plusieurs des pairs qui s'étaient opposés à nous, je les convainquis au point qu'ils changèrent d'avis à notre sujet et prirent parti pour nous, si bien que je sentais chaque jour la main du Seigneur notre Dieu, qui était avec nous dans nos efforts, ouvrant le chemin et agissant pour nous en cela, à lui soit la gloire pour toujours. Pour incliner la Chambre des Pères à nous accorder soulagement de nos souffrances pour n'avoir pas juré, notre cas fut réimprimé et présenté avec plusieurs raisons annexées, entre autres les suivantes. Nous proposons aussi à votre sérieuse considération que cette modération à l'égard des personnes tenues de jurer a produit de bons effets dans les pays voisins, comme l'expérience de sang en l'a montré dans l'exemple suivant. Le 26 janvier 1567, Guillaume de Nassau, prince d'Orange, et Stassau II de Hollande, de Zélande, etc. avec le consentement du gouvernement et du conseil, envoya son mandat aux magistrats, leur ordonnant, au nom du peuple appelé Méniste, qui refusait de jurer en aucun cas, que leur oui soit accepté et tenu au lieu d'un serment, eux restant passibles, en cas de falsification de la vérité, des peines du parjure. En l'année 1593, le prince Maurice, fils du précédent prince, avec le consentement des États, publia un mandat en faveur des Ménistes au même effet. Sur ces passages concernant la liberté accordée aux Ménistes d'être exemptés de prêter serment en se contentant de leur oui, il y avait, en marge de la seconde impression, cette citation tirée de l'histoire de la Réformation dans les Pays-Bas de G. Burney, partie I, page 587-588. À ce moment-là, certains des lords temporels, ils les distinguent des lords célestes, me dirent que l'évêque de Salisbury avait saisi l'occasion de s'élever ouvertement contre les Quakers à la Chambre des lords, parce que nous avions faussement cité son nom comme auteur de ladite histoire. J'en fus quelque peu surpris, et je dis au lord que je m'informerais de l'erreur. En recherchant rapidement la première impression, je trouvai que c'était une faute littérale de l'imprimeur, car dans la première, il est question de l'histoire de G. Brand et non de Burney. J'allai le lendemain et montrai la première impression à deux des dix lords, à savoir le comte de Corbury et le comte de Marlborough, les priant de faire sortir l'évêque offensé hors de séance, afin que je puisse lui montrer où était l'erreur. Ils l'appelèrent dehors pour nous rencontrer, et je montrai clairement à l'évêque que c'était une faute littérale de l'imprimeur, et que les Quakers n'avaient nullement l'intention de le déformer dans la citation, et que, d'ailleurs, l'erreur ne pouvait guère lui porter préjudice, qu'on le fasse auteur d'une histoire de la Réformation aussi connue et estimée que celle mentionnée plus haut. Et j'espérais donc qu'il pardonnerait l'erreur et ne nous en chargerait pas, ce qu'il accorda de bonne grâce, n'en faisant guère cas. Je lui demandai d'être notre ami à l'égard du projet de loi alors pendant devant la Chambre des Lords pour nous soulager des serments, voulant dire qu'il soit avancé et non retardé. Il objecta alors que le nom de Dieu n'y était pas mentionné, c'est-à-dire pour rendre solennellement témoignage en la présence de Dieu. Et si nous ne l'y mettions pas, il serait contre nous, mais si la présence de Dieu y figurait, il promettait d'être pour nous. Je lui dis que ces expressions solennelles, en la présence de Dieu, figuraient dans le projet de loi, tel qu'il avait été approuvé et envoyé par la Chambre des communes. Je l'assurai que s'il voulait entrer à la Chambre des lords et examiner le projet, il serait satisfait de la vérité de cette inclusion. Il retourna donc dans la chambre pour voir le projet, et revint bientôt vers nous, où nous nous tenions avec les deux lords temporels, et il dit alors que c'était vrai, comme je le lui avais dit, que « en la présence de Dieu » était mentionné dans le projet. Le comte de Corbury lui dit « Alors vous vous trompiez, monseigneur. Je lui dis alors que j'espérais qu'il serait désormais pour le projet et qu'il serait présent le jour où il devait être proposé à la chambre, afin qu'il puisse être celui qui seconderait la motion pour son approbation. Il promit devant les deux lords qu'il le ferait, mais ne le fit pas, étant absent ce jour-là même où il fut soumis au vote, ce qui fut remarqué par eux et par d'autres. Cependant, le Seigneur notre Père Céleste nous soutint et nous aida, et disposa beaucoup de ceux qui avaient le pouvoir à faire avancer l'affaire, pour l'aide désirée et demandée. Le 15 du second mois, appelé avril 1696, le projet fut lu une seconde fois, débattu et renvoyé à une commission de toute la Chambre. Puis un débat se tint pendant quelque temps, principalement au sujet d'une déclaration solennelle au lieu d'un serment. Certains n'étant pas disposés à ce qu'il passât sous ces expressions générales et solennelles, telles qu'envoyées par la Chambre des communes, à savoir que leur affirmation ou déclaration solennelle soit faite en la présence du Dieu Tout-Puissant. Mais quelques évêques insistèrent pour qu'on y ajoutât d'autres mots tels que « Je prends Dieu à témoin et à juge, comme témoin et juge, j'appelle Dieu à enregistrer sur mon âme, et j'en appelle à Dieu comme juge, etc. » Ceci et d'autres expressions semblables, certains auraient voulu les mettre dans le projet, à la place des serments habituels. À ce moment-là, nombre de lords temporels vinrent plusieurs fois nous voir, tandis que nous attendions à plusieurs portes et entrées de la Chambre des lords, afin de discuter avec eux de formulations précises que certains évêques auraient voulu nous imposer. Nous nous opposâmes à toutes ces formulations proposées parce que, comme je l'avais dit à certains d'entre eux dès le début, notre démarche et notre pétition pour être délivrés de l'imposition et du fardeau de tout serment n'avaient pas pour but qu'on nous impose quelque nouveau serment. Car s'il y a la moindre imprécation, appel à Dieu, ou invocation de Dieu comme juge ou vengeur, cela serait interprété comme un serment, ou de la nature d'un serment. Sur ce raisonnement, et d'autres de même nature, certains de ces lords, qui nous étaient les plus favorables, retournèrent dans la chambre pour en discuter davantage avec les évêques. Lorsqu'ils virent combien nous étions délicats et attentifs à ne rien subir de contraire à nos consciences, après avoir encore discuté en commission avec ces évêques, Ils revinrent vers nous dans le vestibule, où quelques-uns d'entre nous attendions, dans un véritable souci chrétien et une sainte crainte envers le Dieu Tout-Puissant. Et ces lords qui vinrent vers nous, et nous témoignèrent le plus de soin et de bonté, insistèrent pour que, puisque les évêques s'attachaient à ces mots à ajouter au mot Dieu, témoin de la vérité de ce que je dis, n'impliquant aucune imprécation ni invocation de Dieu comme juge ou vengeur, nous admettions cette addition plutôt que de perdre notre projet de loi ou de le voir rejeté, puisque Dieu est réellement témoin de la vérité déclarée avec sincérité, étant omniscient aussi bien qu'omniprésent. Puis, voyant que les évêques avaient été amenés à renoncer à leur première proposition d'y appeler Dieu à témoin et à juge, etc., l'affaire fut laissée à ceux qui paraissaient nos amis et nous étaient réellement favorables, avec cette précaution de ne pas dépasser ces mots auxquels ils avaient obtenu notre consentement, à savoir témoin de la vérité. Ils contraignent alors les évêques à ne pas les dépasser par quelque imprécation, invocation ou appel à Dieu comme juge, vengeur, etc. Après que la commission de la Chambre des Lords eut fait rapport de leurs amendements, le projet de loi fut adopté, avec la forme suivante d'affirmation solennelle insérée, et accepté par la Chambre des Pères, à savoir « Moi, nom de la personne, je déclare en la présence du Dieu Tout-Puissant, témoin de la vérité de ce que je dis. » Commentaire de l'éditeur du site. Il y a une triste ironie à ce qu'après 40 années de souffrance, près de 1000 morts, des dizaines de milliers emprisonnés, bien d'autres milliers dépouillés de leurs biens, et 200 envoyés en esclavage, ces simples mots ci-dessus aient pu supprimer la nécessité de telles actions barbares de la part des épiscopaliens, des puritains congrégationalistes, des presbytériens et des baptistes, tous ayant si cruellement persécuté les Quakers, à l'image de leur précieux seigneur, ils étaient vraiment des agneaux meuls. Mais enfin, à l'exception de la question des dîmes, la persécution des Quakers était terminée, parce que beaucoup de Quakers estimaient que la formule « en la présence du Dieu Tout-Puissant » était trop proche d'un véritable serment. En 1721, les Quakers présentèrent une pétition au Parlement pour demander un changement de la loi. Cela fut accordé, et la nouvelle formule, plus simple, autorisée fut « Moi, nom de la personne, je déclare et j'affirme solennellement, sincèrement et véritablement. » Bien que Whitehead fût encore vivant à l'époque, en raison d'une mauvaise santé dans sa 86e année, il ne devait pas quitter son domicile pour aider. Que additions dans le projet, peu important, ils le renvoyèrent à la Chambre des communes, laquelle, le 17 du second mois appelé avril, accepta les amendements des lords. Et le 20 du même mois, le projet de loi fut envoyé et porté de nouveau à la Chambre des pairs, accepté, conclu et confirmé par le roi et les deux chambres du Parlement, comme loi temporaire, devant alors demeurer en vigueur pendant 7 ans à compter du 14 mai 1696, puis jusqu'à la fin de la session suivante du Parlement. Elle fut renouvelée de nouveau pour 11 ans, à partir du 22 novembre 1702. Époque à laquelle, n'étant pas en bonne santé, je fus de peu d'aide aux autres amis dans leur présence au Parlement pour cette affaire. Lecteur, une section de sujets supplémentaires et divers a été retirée, mais elle est disponible séparément en cliquant ici. Déclaration finale de Whitehead pour son journal dans des exercices, des épreuves et des tribulations multiples. Le Seigneur mon Dieu m'a soutenu et m'a fait traverser tout cela dans mon pèlerinage. Pour l'amour de son nom et de la vérité, au-delà de ce qu'il serait possible de rapporter dans cette histoire. Ayant passé longtemps, même la plus grande partie de ma vie, depuis ma jeunesse dans le témoignage, le service et la défense de la vérité vivante et immuable, telle qu'elle est en Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai souffert bien des choses. Et pourtant, je ne tiens pas toutes mes souffrances et afflictions pour dignes d'être comparées à la gloire placée devant moi. Pour tout cela, je dois attribuer bénédiction, honneur, gloire, puissance et domination au Seigneur Dieu et à l'agneau sur son trône, au siècle des siècles. Et lorsque, par la grâce et l'assistance de mon Père Céleste, j'aurai achevé l'œuvre qu'il m'a donnée à faire, je crois fermement, et dans une espérance vivante en le Seigneur, que je mourrai dans le Seigneur Jésus-Christ, et que je vivrai à jamais avec lui et me reposerai en lui, dans son royaume céleste. Ô mon âme, entre dans ton repos, oui ton repos éternel, après tes multiples labeurs, peines et souffrances, car le Seigneur ton Dieu agit généreusement envers toi, gloire à son nom à jamais. George Whitehead terminé, Londres, le 18 du 6e mois 1711. Il était âgé de 75 ans. Il a une lettre d'adieu dans la section suivante, écrite dans sa 86e année. Suite. Le but de ce site web est de montrer comment être délivré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.